Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.
Alors bienvenue du coup dans ce live sur ma chaîne Guillaume Deloison du coup et qui du coup accueille l'animateur de Sortir du capitalisme où vous pourrez aussi retrouver ce live. Donc pour le livre La nature est un champ de bataille qui va aborder du coup le sujet de l'écologie pour approfondir aussi ce sujet. On peut se référer à la vidéo de Sortir du capitalisme sur l'écologie sociale avec Murray Bookchin. Et donc avant de commencer, je vais vous lire du coup la quatrième de couverture du bouquin, aussi simple. Dans cet ouvrage, le sociologue Razmig Kecheyan bat en brèche l'idée reçue selon laquelle l'environnement dépasse les clivages politiques et fait l'objet d'un consensus. En revenant sur l'histoire de la justice environnementale américaine, il démontre comment la nature et l'environnement n'échappent pas aux rapports sociaux. Au début des années 1980, les tenants de ce mouvement, issus des courants environnementalistes et des droits civiques, dénoncent le racisme environnemental à l'égard des minorités noires et ethniques qui subissent de manière discriminatoire et disproportionnée les nuisances et dégradations. Les inégalités territoriales et sociales recouvrent en partie une inégale distribution des nuisances et bienfaits environnementaux, soumises elles-mêmes à une logique de marché. Objet cristallisant les conflits sociaux, cette nature est aussi un champ de bataille au sens propre. L'auteur décline ainsi dans un deuxième temps les mécanismes envisagés pour se prémunir des conséquences de la crise écologique, la financiarisation des risques climatiques et une militarisation croissante pour gérer les nouvelles menaces événements climatiques et pour s'assurer un accès aux ressources. En somme, loin de mettre à mal les problèmes qui l'ont engendré, productivisme et logique de marché, cette crise environnementale nourrirait la stratégie néolibérale capable d'en atténuer les effets sur les taux de profit. Si la thèse peut paraître réductrice aux yeux de certains, ce livre, en politisant la question, invite à penser une histoire élargie des conflits sociaux. Donc, alors par contre, c'était pas la quatrième de couverture, hein, c'est un résumé, enfin une note de lecture sur Cairn.info. Voilà. Et du coup, on appréciera aussi le titre de ce livre qui aurait aussi bien pu s'appeler La nature est un sport de combat, mais vu que ce titre commence à être vraiment éculé. On a quelque chose d'un peu mieux quand même, la nature est un champ de bataille. Donc bienvenue à Armand du coup.
Oui, merci à toi de du coup d'avoir proposé de faire voilà un live, une émission sur ce bouquin de Razmig Kecheyan, La nature est un champ de bataille, essai d'écologie politique, qui du coup voilà est un petit peu en trois parties. Avec une partie sur le racisme environnemental, une partie sur la financiarisation de la nature et une partie sur les guerres vertes. Moi, je vais parler principalement de la première partie parce que la deuxième partie est quand même plus connue, notamment à travers le documentaire Nature, le nouvel Eldorado de la finance. Voilà, et le livre de Christophe Bonneuil et de Sandrine Fedel sur le sujet. Et bon, c'est un petit peu, enfin, je trouve que c'est un peu moins original. Et après, sur les guerres vertes, bon, c'est intéressant, mais je trouve que quand même, l'apport le plus important de ce livre, c'est la question du racisme environnemental. Et même au-delà, puisqu'en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que ça s'applique pas uniquement au racisme, Il dit dans son introduction, la nature n'échappe pas aux rapports de forces sociaux, elle est la plus politique des entités. Et donc finalement, il appelle à croiser la question de la nature avec la race, la classe et le genre. Bon, même si évidemment il ne s'agit pas pour lui de mettre tout ça sur le même plan, parce que c'est quand même, dans un cas, c'est vraiment des rapports sociaux entre des groupes humains, alors que dans le cas de la nature, c'est des rapports sociaux, c'est des rapports entre des groupes sociaux, des groupes humains et des groupes non humains, ce qu'on appelle plus généralement la nature. Mais du coup, ce que je trouvais intéressant dans ce livre, c'est d'aborder l'écologie sous un angle très différent de celui de d'habitude. Finalement, l'écologie, d'habitude, elle est abordée sous un angle très, très général, très philosophique, très humaniste. Et la naissance de l'écologie, alors il y a différentes thèses en histoire, mais il y en a qui font naître l'écologie dans les îles du Pacifique colonisées par la France. Il y en a qui font naître ça aux États-Unis dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec un mouvement globalement de bourgeois américains qui veulent préserver une nature fantasmée qu'on appelle la wilderness, qui est une espèce de nature sauvage qui, comme le montre Kechoyan et d'autres historiens, est en fait une création, une espèce de mythe, parce que par exemple les grands parcs nationaux comme Yellowstone aux États-Unis sont en réalité des parcs qui n'étaient pas du tout vierges de toute trace humaine à la base, mais en réalité pour constituer ces parcs, on a expulsé les populations indigènes, amérindiennes en l'occurrence, qui existaient là. Plus généralement, pour parler d'aujourd'hui, de l'écologie mainstream aujourd'hui, l'écologie mainstream, elle est incarnée par des organisations que critique le livre, comme par exemple WWF, et d'autres organisations équivalentes, plus spécifiques en France ou aux États-Unis, il en liste pas mal, et globalement, qui font de la nature et une question qui n'est pas sociale, qui est en dehors du social et qui est donc en dehors des espaces humains et qui est préservée dans sa pureté originelle. Donc c'est pour ça que c'est une écologie qui s'intéresse principalement à ce qu'ils appellent du coup la nature sauvage, et donc leur principal but, c'est globalement de préserver des mangroves, tel et tel territoire. Donc c'est finalement une nature très très localisée et qui finalement, c'est une nature très localisée où on va expulser les populations locales sous prétexte qu'elles ont des pratiques qui ne sont pas écologiques. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui encore dans le monde, par exemple en Éthiopie. Et d'autre part, ça va être des espaces qui vont être principalement accessibles aux touristes. Donc ça va être une espèce de nature comme loisir bourgeois, et c'est d'ailleurs comme nationaux-américains, par une expulsion des populations locales sous prétexte de nature sauvage et d'écologie, et pour en faire un lieu de plaisance bourgeois accessible à une très faible partie de la population. Et du coup, pour finir, c'est pas cette nature-là qui l'intéresse, c'est pas la préservation de cette nature-là qui l'intéresse. Lui, il va s'intéresser à comment est-ce que... il va pas s'intéresser à la nature sauvage, mais plutôt... aux produits des activités industrielles, notamment dans les milieux urbains, et comment est-ce que la pollution, toutes les activités industrielles vont impacter les groupes sociaux les plus dominés dans la société. Donc lui, il parle beaucoup de la dimension voilà, de la race et de la classe. Donc la race, évidemment, hein, au sens d'une construction sociale qui existe réellement et qui, voilà, qui organise réellement la société de manière hiérarchique. Et donc, par exemple, aux États-Unis, le mouvement de la justice environnementale a visibilisé le fait que les activités les plus polluantes touchaient d'abord les populations racisées et notamment afro-américaines. Ça marche aussi pour la classe, plus généralement, puisque globalement, les activités industrielles les plus polluantes vont toucher principalement les classes populaires. Voilà, il suffit de regarder Paris, par exemple. À Paris, les incinérateurs qui polluent énormément et qui bousillent la santé des gens qui ne vivent pas très loin, en général, ils sont situés dans les banlieues et dans les banlieues voilà, où il y a des banlieues des classes populaires et où il y a une majorité de personnes racisées. Ils ne sont pas situés dans le 78 ou dans le 16e arrondissement, étrangement. Et on pourrait même rajouter, même si lui il n'en parle pas, une dimension de genre, dans le sens où on sait que dans notre société patriarcale et sexiste, les personnes les femmes ont tendance à être plus pauvres que les hommes pour tout un tas de raisons historiques et structurelles. Et du coup, les femmes vont se retrouver en grand nombre dans ces espaces urbains où se concentre la pollution industrielle.
Bon, moi, je voulais rebondir notamment en termes d'exemples, parce que du coup, j'ai fait quelques recherches aussi avant, et en termes d'exemples qui sont assez récurrents, bon, bah, effectivement, tu as parlé de la Seine-Saint-Denis, et qui a été le deuxième département le plus touché par la surmortalité suite aux conséquences du dérèglement climatique par rapport aux canicules de 2003. Donc, on voit du coup là une vraie inégalité empiriquement constatable. Et sinon aussi, ce qui revient assez souvent dans l'argumentaire du racisme environnemental, c'est la ville de Flint, qui est du coup devenue un vrai symbole de ce racisme environnemental, étant donné que, alors c'est à Flint, il y a un énorme scandale de l'eau en fait qui a été contaminée par du plomb. Et à la Maison Blanche, en fait, ça, bah forcément, en fait, la question scandale de l'eau contaminée aurait eu lieu même, ou est-ce qu'il y aurait eu des, est-ce que des choses auraient été faites pour pas que ça arrive, quoi. Il y a aussi un rapport, comment il s'appelle ce rapport, par Clean Air Task Force, donc je ne sais pas exactement ce que ça vaut, mais on le trouve assez vite dès qu'on fait des recherches, et qui justement compile plusieurs données comme ça sur les inégalités environnementales qu'on peut retrouver, donc sur les impacts sur la santé, des choses comme ça, sur la pollution environnementale et autres joyeusetés de ce genre. Donc, rapport, oui, je l'ai dit, de Clean Air Task Force du NAACP
en novembre 2017. Ça, c'est intéressant que ce soit la NAACP, puisque historiquement, c'est la National Association for the Advancement of People of Color. Donc, du coup, c'est l'association nationale représentative, entre guillemets, des personnes afro-américaines. Et justement, ce qui est intéressant dans le mouvement de justice environnementale par rapport au mouvement écologiste, c'est que c'est pas du tout les mêmes personnes qui le portent. C'est-à-dire que le mouvement écologiste, alors bon, évidemment, il y a pas un courant écologiste, hein, il s'agit pas de mettre tout le monde dans le même panier, mais disons que le mouvement écologiste le plus visible et le plus mainstream à la WWF, c'est un mouvement globalement très bourgeois, de pays occidentaux, etc. À la limite, si on va vers des organisations environnementales un petit peu plus radicales, entre guillemets, hein, comme Greenpeace, là déjà, il y a une composition qui est un petit peu moins bourgeoise, mais globalement, ça reste quand même classe moyenne. Et ce qui est intéressant dans les mouvements de justice environnementale, c'est que c'est vraiment la partie la plus dominée de la population qui va se battre, non pas comme souvent, enfin comme pas souvent, mais parfois dans les luttes parfois dans les discours écologistes au moins, pas tellement dans les luttes, mais dans les discours écologistes, il y a beaucoup une espèce de vision voilà du global. Il faut sauver globalement la planète. Et évidemment, c'est hyper important, notamment sur des problématiques comme le dérèglement climatique. Mais disons que le mouvement de la justice environnementale, ce qui est intéressant, c'est que ça part de luttes locales, voilà, d'enjeux locaux. Et surtout, ça c'est quelque chose d'intéressant chez Razmig Keshoyan, c'est le fait que souvent, la question environnementale va toucher les groupes les plus dominés de la société par le biais de la santé. Alors, la santé voilà, liée à des activités industrielles aux alentours voilà, des quartiers où les classes populaires vivent, mais aussi par le biais de la santé au travail. Voilà, et les accidents, et de toute la pollution, parce que il n'y a pas simplement l'extérieur qui est pollué par les activités industrielles, mais en première ligne, il y a les travailleurs et les travailleuses. Et donc, ça, j'ai trouvé, c'est intéressant, son idée à Razmig Keshoyan, c'est que, souvent, on cherche, notamment dans les milieux d'extrême gauche, quel pourrait être le point de jonction entre, des luttes écologistes ou une critique écologiste du capitalisme et des luttes voilà, de classe, plus voilà, des luttes sur les lieux de travail. Et il n'y a pas toujours eu des réponses très satisfaisantes à cette question, je trouve, mais par contre, la question de la santé au travail, c'est vrai que ça marche plutôt bien. Alors même si, évidemment, les écologistes voudraient arrêter toute industrie polluante, ou au moins une partie, ou dans l'idéal, hein. Alors que dans le cadre de la société capitaliste, les travailleurs et les travailleuses, les prolétaires, doivent gagner leur croûte, et donc du coup, ils n'ont pas envie que leur usine ferme. Donc évidemment, il y a toujours une tension entre les impératifs écologiques et les impératifs de survie matérielle, dans le cadre de la société capitaliste. Et bon, bah, évidemment, ces contradictions, elles pourront être résolues que dans voilà, par une sortie globale et révolutionnaire du capitalisme. Mais disons, en attendant, entre guillemets, déjà sur la question de la santé, il y a une articulation possible, c'est-à-dire que s'il y a des activités industrielles qui impactent à la fois les riverains et à la fois les travailleurs et les travailleuses, il peut y avoir éventuellement une lutte commune. Et d'ailleurs, j'en profite pour rajouter que parfois de manière un peu caricaturale, on oppose, des classes moyennes bobos, voilà, qui veulent préserver leur cadre de vie et des ouvriers et ouvrières et des syndicats, voilà, qui défendent à tout prix leurs usines et les activités polluantes qui vont avec. Mais, et ça c'est justement un des apports de cet ouvrage, il ne faut pas oublier que souvent, les personnes dont le cadre de vie va être dégradé par les activités industrielles, ça ne va pas être les classes moyennes, ça va être les prolos souvent racisés qui sont dans les banlieues américaines, aux États-Unis c'est un peu différent, mais... disons dans les périphéries entre guillemets de l'espace social, dans les zones les plus reléguées où il y a le moins d'infrastructures, d'accès aux soins, etc. Et d'ailleurs c'est finalement assez logique puisque le choix d'implantation des activités industrielles va se faire en fonction du coût du terrain et évidemment c'est dans les endroits les plus relégués socialement que le terrain va être moins cher. Et réciproquement, c'est parce que il y a déjà des activités industrielles que du coup, les prix des loyers notamment sont plus bas qu'ailleurs et du coup que les populations les plus défavorisées vont devoir avoir beaucoup d'autres choix que de s'installer à côté de ces activités industrielles. Donc, finalement, il y a quand même beaucoup de cas et c'est ça, ça rend la chose encore plus compliquée, où qu'il peut y avoir des oppositions d'intérêts entre riverains et entre travailleurs et travailleuses qui font partie de la même classe. Donc, ce qui évidemment rend les choses encore plus compliquées. Notamment si il y a des objectifs, notamment si l'activité de l'usine en tant que telle est vraiment nuisible. Si il y a moyen de faire pression ensemble pour que l'usine n'ait plus d'impact ou un impact minime, disons, sur les travailleurs, les travailleuses d'une part et les riverains et riveraines d'autre part, là il peut y avoir une lutte commune plus facile. Mais voilà, c'est vrai que le livre de Kecheyan est vachement intéressant pour essayer de croiser les questions environnementales et sociales. Mais bon, malgré tout, au cas par cas, c'est pas toujours évident. Il donne l'exemple par exemple de l'usine AZF, donc qui a explosé à Toulouse en 2001. Donc qui a tué plusieurs dizaines de personnes, des riverains. Alors donc lui, il explique notamment dans le livre que les personnes qui étaient aux alentours de l'usine AZF, c'était des personnes majoritairement des classes populaires et des personnes racisées, parce que c'est l'industrie chimique s'implante dans des endroits où ça coûte moins cher et les gens s'implantent dans les endroits où il y a des industries chimiques parce que ça coûte moins cher et aussi parce qu'il y a du travail. Donc voilà, c'est des humaines qui appartiennent aux classes les plus dominées dans la société. Ont voulu fermer l'usine, et en même temps, les syndicalistes et une partie des travailleurs et des travailleuses qui y travaillaient, eux, ont vu dans le mouvement de protestation des riverains, majoritairement racisés, nous dit Kecheyan, comme un mouvement finalement ferait une espèce d'alliance objective avec l'entreprise, qui de toute façon avait déjà prévu pour des questions de profitabilité de faire fermer l'usine AZF. Donc on voit qu'il y a quand même encore pas mal de tensions, même si parfois il peut y avoir effectivement des convergences très très nettes, notamment lorsqu'il s'agit... Alors là où il y a des convergences totalement nettes, c'est quand il ne s'agit pas directement d'activité industrielle, mais de déchets. Donc là, il cite un exemple Kecheyan dans le livre, d'une mobilisation aux États-Unis pour empêcher... pour imposer aux autorités locales de retirer une décharge de produits toxiques. Là, effectivement, il n'y a pas la contradiction, entre prolétaires en tant que travailleurs et entre prolétaires en tant que riverains. Voilà, donc évidemment, là, ça favorisait un front uni et une lutte qui était à la fois environnementale et sociale. Je dirais que c'est vraiment dans ce cas-là où il y a vraiment une unité qui peut se faire de la perspective écologiste et de la perspective sociale. Mais sinon, dans le cas des usines polluantes, c'est quand même plus compliqué. Et on voit ça de manière générale, on voit ça avec le nucléaire, on voit ça avec l'industrie chimique. En France, on pourrait sortir tellement d'exemples, les usines qui rejettent des boues rouges dans les calanques, les centrales nucléaires,
Bure.
Ça reste compliqué, quoi. Ou Bure. On voit que il n'y a pas forcément, en tout cas, il y a la question écologique, à part. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité des intérêts immédiate et facile à faire. À la limite, effectivement, pour résoudre la question sociale et la question écologique, évidemment, il faut sortir du capitalisme. Mais de manière immédiate, mais ce que je trouve quand même intéressant avec Kecheyan, même si on voit bien que, malgré tout, ça reste compliqué d'articuler les questions sociales et les questions écologiques, c'est que il y a une manière d'aborder les questions écologiques et que qu'il y a une manière bourgeoise qui s'intéresse à la préservation de la nature sauvage et qui doit nous désintéresser complètement et même qu'on doit combattre lorsque ça a un impact négatif sur les populations locales. Et d'un autre côté, il y a une écologie sociale qui s'attache à combattre le capitalisme particulièrement dans les situations où l'impact écologique et sanitaire de ces activités touche les classes sociales les plus dominées.
Effectivement, en fait, on retrouve bien la même séparation entre des mouvements plus réformistes qui vont avoir tendance à privilégier des stratégies où ils vont utiliser des grands mythes, comme le mythe de la nature, dont on ferait presque pas partie, en fait, et qui serait opposé à l'humanité comme un tout homogène, en fait, et qui, du coup, est une vision très interclassiste. Et de l'autre côté, une vision plus radicale qui prend en compte les rapports sociaux et les rapports sociaux dans cette écologie, et du coup, qui ne fait pas l'impasse sur les contradictions, mais parce que de toute manière, elles sont là et elles sont objectives et il faut faire avec. Et du coup, c'est à ces contradictions qu'il faut s'attaquer pour créer le commun et pas se contenter de simplement proclamer l'unité avec un mythe populiste ou nationaliste ou interclassiste. Après, on peut mettre plein d'adjectifs à cet endroit. Ça a coupé deux secondes. Je disais les articles de Nicolas Cazot qui débunkent des opérations de greenwashing, pareil, vu que tu parlais de WWF ou de Greenpeace. Donc, je vous invite à aller lire ces articles qui sont très instructifs à ce sujet-là. Et du coup, sinon, moi, j'aurais aimé savoir si tu avais lu aussi, du coup, la deuxième partie, j'imagine, qui parle de la réaction, de comment le capitalisme est capable de s'adapter à toutes ces problématiques. Dans l'intro, là, ça parlait de start-up qui veulent... trouver des super moyens innovants pour traiter les déchets ou des trucs comme ça et qui utilisent les externalités négatives comme des opportunités de développement et de valorisation, ou alors la financiarisation de l'environnement où on va faire des réserves naturelles et où on va spéculer sur ces réserves, etc.
Oui, alors effectivement, je l'ai lu. Alors peut-être pour faire un pont avec ce que je voulais finir de dire sur la première partie du livre, c'est qu'à un moment Razmi Keshoyan parle de déconationalisme. Ça, c'est assez intéressant. C'est comment est-ce que finalement le nationalisme peut tirer profit de la crise environnementale, tout comme la deuxième partie, elle va parler de comment est-ce que le capitalisme peut tirer profit de la crise environnementale. Donc bon, pour le cas du nationalisme, ça va être dans la nature qu'il va y avoir les nationalistes vont trouver une source d'identité nationale. Donc aux États-Unis, c'est particulièrement visible puisque la nature sauvage est censée être vraiment ce qui incarne l'âme de l'Amérique, etc., etc. Et finalement, ce mythe de la nature, cet appel à la nature sauvage, cette invocation de la nature sauvage comme fondateur de l'identité américaine, un mythe qui va de pair finalement avec le mythe du colonialisme européen, en Amérique du Nord, à partir du XVIIe siècle, c'est-à-dire l'idée d'une terra nullius, d'une terre sans peuple, où il n'y a personne. Et finalement, cette invocation perpétuelle de la nature sauvage dans le discours nationaliste aux États-Unis c'est une forme de nier de nouveau l'existence préalable des populations qu'on appelait amérindiennes. Voilà, donc c'est vraiment... La nature sauvage aux États-Unis, c'est à la fois un mythe pour l'identité nationale et c'est un mythe qui est donc non seulement nationaliste, mais aussi raciste, colonialiste et, même si je mettrais des guillemets à ce terme, un peu négationniste, dans le sens où il nie l'existence des Amérindiens, et d'ailleurs même matériellement, c'est-à-dire que pour constituer les grands parcs nationaux, il y a eu une expulsion des populations amérindiennes. Et d'ailleurs, j'en profite pour rajouter, puisque que Cheyenne l'indique, les populations amérindiennes sont par les activités polluantes, notamment parce que l'armée américaine qui ne veut pas impacter négativement avec ses essais nucléaires et ses essais d'armes, peut-être pas chimiques, mais enfin voilà, qui ne veut pas impacter, disons, les populations blanches, notamment de classe moyenne et de classe bourgeoise, par ses activités. Évidemment, c'est beaucoup rabattu en fait sur des terrains militaires qui sont situés assez souvent près des réserves indiennes. Donc, ce qui fait que les Indiens, après avoir été colonisés, massacrés, déportés, expropriés enfin enfermés dans des réserves, se retrouvent en plus avec des retombées extrêmement négatives pour leur santé et pour leur environnement à cause de l'armée américaine. J'arrive sur la deuxième forme d'éco-nationalisme qu'il étudie, qui est celui de l'Inde. En Inde, il y a également une espèce de mythe qui est mobilisé autour de la nature indienne comme socle de l'identité nationale, même si je pense que c'est moins fondamental qu'aux États-Unis, parce qu'il y a une dimension aussi religieuse dans le nationalisme hindou qui est très très forte, et la nature est quand même moins centrale. Mais du coup, pour revenir sur ta question de départ, qui était celui de la financiarisation de la nature, globalement, ce qu'on peut en dire très rapidement, c'est que il y a une tentative pour une partie du capital de faire des bénéfices en créant un marché qui consiste en gros à assurer des espèces naturelles et des espaces naturels. Une assurance dessus et globalement l'idée c'est des gens venaient à vouloir polluer ou dégrader ces environnements ou ces espèces, ils devraient payer alors, pour prendre un exemple du film Nature, le nouvel Eldorado de la finance, il y a des banques d'espèces. Donc, il y a une espèce qui est quantifiée en temps d'action qui représente globalement le coût de sa préservation. Et donc, des entreprises qui souhaitent dégrader un peu l'environnement de cette espèce peuvent acheter des actions espèces en danger et à hauteur de l'équivalence monétaire de ce qu'ils vont dégrader. Donc, ce qui fait que, par exemple, si on estime qu'ils vont dégrader pour... 50 000 euros l'environnement, 50 000 dollars, ça se fait surtout aux États-Unis, l'environnement de telle espèce protégée, du coup, ils vont devoir acheter pour 50 000 dollars de l'action de ces, ce qu'on appelle les biobanques, qui revendent, qui font leur beurre là-dessus, quoi. Donc, c'est assez spécial. Je n'ai pas trouvé que c'était ce qui allait être plus original chez Ke Chee Yan. Et je pense que là, pour le coup, il y a vraiment un documentaire très, très accessible que j'invite à tout le monde à regarder. Nature, le nouvel Eldorado de la finance, qui explique bien tous ces mécanismes.
C'est vrai qu'il est très bien. Je l'avais déjà vu il y a un moment et j'avais beaucoup apprécié aussi. Du coup, il me semble qu'on a fait un peu le tour, donc je pense qu'on va pouvoir passer au live global, sauf si tu veux rajouter quelque chose.
Non, moi ça me va très bien. Si on passe au live global, je pense qu'on a fait un très bon tour de la première partie. On a un petit peu, enfin, rapidement parlé de la deuxième partie. Et simplement pour dire, la troisième partie globalement explique comment est-ce que les armées du monde entier prennent en compte désormais les questions environnementales, soit pour des raisons stratégiques, parce que évidemment le dérèglement climatique, ça va avoir un impact militaire, la montée des océans, donc éventuellement des bases militaires qui vont se retrouver noyées, par exemple celle de San Diego au milieu de l'océan Indien. Ça va avoir des impacts aussi parce que l'Arctique va fondre, donc éventuellement voilà, la marine russe pourra plus facilement attaquer le continent voilà, nord-américain. Donc voilà, il y a un vrai intérêt des armées à l'heure actuelle pour les questions environnementales. Et Kushoyan fait même l'hypothèse que l'armée pourrait, disons, renforcer son pouvoir, son poids au sein, disons, de la classe dominante dans les pays capitalistes, dans le sens où, qui dit multiplication des catastrophes naturelles avec le dérèglement climatique, dit multiplication du recours voilà, à des forces spéciales qui sont censées savoir gérer ces situations, et dit multiplication du recours à l'armée. Et c'est pour ça qu'on a vu, par exemple, l'armée intervenir à Katrina, et d'ailleurs que Cheyenne en parle de Katrina, mais il dit bien que c'est à la fois, c'est une manifestation à la fois de la militarisation de l'écologie, et donc objet du troisième chapitre, et en même temps, une démonstration que les catastrophes écologiques, notamment le dérèglement climatique, impactent en priorité les populations voilà, prolétaires et notamment racisées, puisque les personnes qui ont été les plus victimes de Katrina sont des personnes afrodescendantes et des personnes âgées. Les personnes âgées, on s'en doute pourquoi, parce qu'elles ont plus de difficultés à fuir. Et les personnes afrodescendantes, parce qu'elles étaient sur des zones, elles étaient logées dans des zones inondables, qui n'étaient pas protégées. Voilà. Et d'ailleurs, on peut voir qu'à un niveau beaucoup plus global, le dérèglement climatique touchera le plus durement les populations des pays non occidentaux et surtout des classes populaires, par exemple au Bangladesh ou l'augmentation du niveau des eaux risque de devenir très préoccupant.
Effectivement, du coup, ça pose des questions qui sont d'importance et qui aussi montrent aussi la nécessité de la lutte, parce que face à tout ce constat, on pourrait se dire que la crise écologique ne pourrait être qu'une crise comme une autre dans le capitalisme. Bon, personnellement, je pense que vu l'ampleur de la crise, ça va être quand même difficile de maintenir les infrastructures capitalistes, mais du coup, c'est quand même vraiment une question qui se pose. Est-ce que le capitalisme va être capable de tout simplement gérer cette crise comme il en a géré tant avant? Et la crise écologique, du coup, ne sonnerait peut-être pas forcément son glas, ce qui est d'autant plus effrayant.
Oui, juste rapidement pour répondre à ça, est-ce que le capitalisme va réussir à gérer la crise écologique? Elle la résoudra pas, ça c'est très clair. Par contre, elle va probablement, au moins dans un premier temps, réussir à en gérer les conséquences de manière extrêmement répressive. Donc Katrina a donné un petit aperçu, c'est-à-dire en gros en envoyant l'armée pour rétablir l'ordre dans les zones où l'ordre capitaliste aurait été ébranlé par la catastrophe climatique. Donc notamment pour empêcher les pillages, les tentatives de solidarité auto-organisées qui ne se feraient pas dans le respect de la loi, etc. etc.
Ok, bon, j'allume la permission collective normalement du coup de pouvoir parler. Est-ce que ça fonctionne? Mais du coup, est-ce que vous avez déjà des questions?
Moi non.
Oui. Éventuellement, est-ce que vous aviez un peu suivi les travaux? Je ne sais pas s'il avait fait un bouquin là-dessus, mais en tout cas, il avait fait des articles, Razmik Kushoyan, sur la question justement de la gestion des biens, des pas nécessairement les biens communs, mais la question des besoins, la théorie des besoins, etc. Et justement, est-ce que vous feriez un lien entre les articles qu'il avait fait sur le sujet et le livre en question là dont vous avez parlé jusque-là?
Razmik Kechoyan, La nature est un champ de bataille, d'ailleurs, pour rappel, du coup.
Voilà.
Et du coup, toi, l'œuvre dont tu nous parles, c'est... Je vais essayer de rechercher, parce que moi, ça ne me dit rien.
Est-ce que c'est une question par rapport à la théorie des communs et tout le débat sur les communs environnementaux? Ça n'a rien à voir.
Bon, en fait, non, c'était plus... En gros, Razmik Kechoyan avait un peu écrit, mais je crois que c'était juste des articles. Il avait fait plusieurs interventions, et justement, il parlait pas mal de la question de la théorie des besoins, en fait. Et justement, j'imagine que s'il avait... En fait, il avait fait cette réflexion dans une optique en liant écologie et justement anticapitalisme. Et j'imagine que ça pourrait être intéressant de voir... dans quelle mesure justement ça s'oppose à l'optique du fameux capitalisme vert et les différents éléments que vous avez évoqués jusque-là en fait.
D'accord.
Désolé, c'est pas très clair parce que sinon j'ai pas de questions extrêmement précises.
ouais, la théorie des besoins, il faudrait que je vois à peu près.
J'ai mis un article
du Monde.
Ouais.
L'article du Monde Diplo.
Mais il a fait un article dans le Diplo justement, ouais.
Bah après, peut-être, l'article charge très lentement sur mon ordinateur, mais par rapport à la question des besoins, ça renvoie à plein de différents, notamment dans quelle mesure, le caractère construit socialement des besoins dans la société capitaliste, le fait que une partie des besoins sont suggéré fortement par la publicité et le spectacle de manière générale. Évidemment, bon, ça c'est un problème écologique très important, même si je pense que c'est important à un niveau idéologique, effectivement, le fait de faire croire aux gens qu'ils ont besoin du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, extrêmement polluant, etc., pour avoir un le confort qu'ils ont actuellement. Mais d'un autre côté, je pense que c'est pas tellement le consumérisme qui est responsable du dérèglement climatique. À la limite, si, parce qu'il faut bien trouver un débouché, sinon les industries polluantes du capitalisme, elles arrêtaient de produire si personne consommait leurs marchandises. Mais je pense que le problème, il se pose plus au niveau de la production qu'au niveau de la consommation, même si c'est sûr que, pour l'instant, par contre, idéologiquement, c'est extrêmement fort. C'est le fait que les gens ont l'impression de ne pas pouvoir sortir du capitalisme parce que ce serait un effondrement civilisationnel. Donc c'est souvent ce qu'on répond à la critique écologiste, que ce serait le retour à la bougie, etc.
Effectivement, là je suis en train de lire un bout de l'article, et il y a une question qui résume assez bien, je pense, qui se pose à la croisée de toutes ces questions, c'est comment rompre avec cette logique de distinction productiviste, donc en parlant du régime social dans le capitalisme, quoi. Et effectivement, du coup, s'attaquer aux besoins, c'est aussi s'attaquer à la construction sociale des besoins et à la logique productiviste du capitalisme.
Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que, par rapport à ça, moi, quelque chose que je trouvais d'intéressant, après, je vais répondre à un commentaire, disons, de Zadiste Distribuidor Dissémias. Y a un article assez intéressant là-dessus, pourtant qui n'a pas directement rapport avec l'écologie. C'est un article de Bruno Astarian qui s'appelle Activité de crise et communisation. Et qui est assez intéressant, je trouve. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'il décale un peu la question écologique. C'est-à-dire, plutôt que de se demander quelles industries on va garder dans. S'il y a une sortie du capitalisme global. Et qu'on arrive vers une société de type communiste libertaire, donc fondée notamment sur les besoins, les fameux besoins, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Qu'est-ce que ça va avoir quelles industries on garde, etc. etc. Et en fait, Astarian, il repose la question du point de vue de la production en disant bien sûr que tout le monde en tant que consommateur, entre guillemets, a effectivement envie de, et même dans une société post-capitaliste, peut-être aura envie de smartphone, de machin, de bidule. Après, la question, ce sera mais qui aura envie de produire ces smartphones, etc., etc. Et en fait, ça va pas tellement être, à mon avis, au niveau de la demande, enfin, si je réutilise ces concepts capitalistes pour une société post-capitaliste, c'est pas tellement que les besoins des gens, enfin que les gens vont se dire « Ah bah oui, nous on est pour la sobriété heureuse. » Ils vont pas être pour la sobriété heureuse, ils ont pas tous lu la décroissance. Voilà. Mais simplement, peut-être qu'ils vont pas avoir envie de retourner à l'usine et que du coup, ils vont se dire « Bon bah, si en échange de ne pas retourner à l'usine et de retomber dans le travail salarié, la hiérarchie, métro, boulot, dodo, etc., etc., eh ben, on n'a pas de smartphone, ben, tant pis. » Et puis aussi, il y a aussi le fait, ça se pose à un niveau global. Qui aura envie, en Chine, d'aller extraire des terres rares qui provoquent le cancer, voilà, enfin, qui sont nécessaires à la fabrication des smartphones? Qui, au fin fond du Congo, aura envie d'aller dans des mines de coltan pour faire des téléphones portables?
Alors, du coup, l'article de Razmig Kechayan du Monde Diplomatique, qui reprend en grande partie, du coup, des thèses de André Gorz. Donc, l'article commence, du coup, sur les besoins. Donc, c'est toi qui nous en parlais, Lapin Billy. Et du coup, cet article, il part du manifeste Négawatt, l'un des ouvrages d'écologie politique les plus stimulants paru récemment, rédigé par les spécialistes de l'énergie. Donc, grosso modo, la question, c'est qu'est-ce qu'un besoin? Comment définir un besoin essentiel? Qu'est-ce qui le distingue d'un besoin accessoire ou inacceptable? Et ensuite, qui décide quel mécanisme ou institution conféreront une légitimité au choix de satisfaire tel besoin plutôt que tel? Ce qui me chiffonne particulièrement, c'est que du coup, après, dans tout l'article, il y a toute une prose qui est directement inspirée de Heidegger. Enfin, ça transpire de ouf. Genre, il y a le terme d'authenticité qui est mis à toutes les sauces. Genre, de qu'est-ce qu'un besoin authentique qui serait du coup dissocié d'un besoin inauthentique. Donc, on voit bien ce que ça signifie. Alors, le besoin authentique, ça serait boire, le sommeil, tout ça, alors que, par exemple, un smartphone, ça serait un besoin inauthentique. Sauf que, du coup, ça, c'est complètement faire abstraction des dynamiques sociales de la consommation. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est une nécessité pour beaucoup dans le travail d'avoir un smartphone. Et c'est pas juste un besoin comme ça, genre une frivolité ou un désir capricieux.
oui, c'est bien de le signaler.
Voilà, et je reprends les deux choses que j'ai citées. C'est constitutif de notre être, les besoins authentiques ne peuvent trouver leur satisfaction dans le régime économique actuel. Et le consumérisme ensevelit les besoins authentiques sous des besoins factices. Alors là, en fait, on retrouve parfaitement la prose de Heidegger avec l'être et l'étant. Du coup, l'être qui serait l'essence des choses, genre comme le vrai homme viril, etc., qui serait l'être homme, tandis que l'étant, ce serait que les différents hommes qui ne sont pas vraiment tous des hommes, qui sont même pour certains des tafioles, etc. Quoi, hein, c'est presque comme ça que le dit Heidegger. Et du coup, qui préfère sanctifier des besoins plus authentiques à d'autres, tout en occultant parfaitement les déterminants sociaux de la consommation. Et du coup, c'est pourquoi on retrouve vraiment bien ça dans cette phrase, le côté réactionnaire qui va avec Heidegger, c'est constitutif de notre être, les besoins authentiques ne peuvent trouver leur satisfaction dans le régime économique actuel. Donc en fait, ça paraît révolutionnaire, ça paraît être, oui, il faut sortir du capitalisme pour pouvoir libérer nos potentialités, etc. Sauf que dans la philosophie de Heidegger, c'est pas du tout comme ça que c'est entendu. C'est entendu, il faut se sortir du capitalisme, ou en tout cas ce qui s'appelle le capitalisme, qui est bien souvent en fait une critique tronquée du capitalisme et qui parle seulement du néolibéralisme. Ça, genre, on ne pourrait pas être un vrai homme viril dans le capitalisme. Bon, bah voilà, là tout de suite on voit parfaitement le parallèle qu'on peut faire avec tous les faf qui font des critiques du capitalisme ou du féminisme et qui se plaignent après qu'il y a des meufs qui se peignent les cheveux en rose ou en bleu et ça, ils supportent pas, quoi. Genre, et ça, c'est la faute du capitalisme, selon eux. Donc voilà, je trouve que du coup, dans toute cette critique des besoins, il y a une critique de la consommation qui est quand même assez tendanciellement réactionnaire. Mais bon, c'est pas la première fois en même temps qu'on retrouve des thèses qui, dans l'écologie, qui font revenir du Heidegger. Et ça, c'est d'ailleurs dans la décroissance, il y en a aussi. Et ça, c'est toujours très problématique. Du coup, je trouve que c'est pas plus mal d'avoir pu en toucher un mot là.
Par rapport à justement à Heidegger, on avait déjà fait avec Benoît Boibinel une émission sur Heidegger, sur l'antisémitisme des philosophes allemands globalement, sur le capitalisme, accompagné de plusieurs notes de lecture. Et là, on a récemment enregistré une émission qui, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera en ligne, donc une critique aussi même de fameux ouvrages qui étaient censés être de la période pré-nazie d'Heidegger, où Benoît Boibinel essaie de montrer... voilà, en quoi est-ce que Heidegger, une critique tronquée, nationaliste, ethnocentrique, antisémite, de la modernité capitaliste. Et oui, et romantique également. Et d'ailleurs, oui, effectivement, le romantisme, c'est un bon point d'accroche parce que c'est un petit peu souvent du romantisme que vient. L'écologie réactionnaire, c'est-à-dire une espèce d'idéalisation de la nature qui serait censée révéler le vrai des rapports sociaux. Et finalement, c'est intéressant justement ce retournement. Et c'est pour ça que, on a parlé beaucoup avec Kecheyan du coup du croisement, voilà, des questions sociales et des questions environnementales. Mais je pense qu'il faut bien voir de laquelle manière on le fait. C'est-à-dire que globalement, ce qui caractérise l'écologie réactionnaire, c'est le fait de considérer que la nature est tout, le social n'est rien, et que le social, c'est l'artificiel. Et on trouve un peu cette distinction quand même chez les anti-industriels aussi, cette opposition entre le naturel et l'artificiel, qu'on retrouve notamment chez Jacques Ellul, qui, moi, me semble vraiment très problématique, dans le sens où, bien sûr, que tous les rapports sociaux sont des artefacts. Je veux dire, on les trouve pas dans la nature, et tant mieux d'ailleurs. Et du coup, cette référence constante à la nature pour, orienter les rapports sociaux et juger les rapports sociaux, ça me paraît extrêmement dangereux. Donc pour moi, une écologie sociale, c'est une écologie qui pense la résolution des problèmes écologiques par une transformation sociale, et pas tellement par une transformation du rapport à la nature, même si évidemment... ça passe aussi par un rapport moins prédateur à la nature, mais disons qu'il y a avant tout une question de changement de société. Et d'autre part, c'est une écologie sociale dans le sens où elle considère que la sphère des rapports sociaux doit être conçue comme totalement autonome vis-à-vis de ce qu'on appelle la nature. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à réfléchir au rapport de genre ou d'autres rapports à l'aune de la référence à la nature. Parce que et malheureusement, c'est ce qui est fait beaucoup dans l'écologie. C'est-à-dire qu'on va commencer par dire il faut arrêter la surconsommation, le rapport prédateur à la nature. Moi, je suis là. Et après, ça va être non, mais en fait, la contraception, l'avortement, c'est pas très naturel. Il faut allaiter jusqu'à 3 ans, tout le monde, même si tu n'en as pas envie. Il faut des couches lavables, même si t'as pas le temps et que tu fais déjà la double journée, avec un discours écologiste qui peut être finalement réactionnaire, qui peut être un moteur finalement d'un retour à l'ordre patriarcal. Je pense que malheureusement aujourd'hui, l'écologie, comme elle peut être mobilisée de manière nationaliste ou raciste, il suffit de voir les identitaires en France qui se sont beaucoup emparés de la question d'écologie. Parce qu'évidemment, la nature, le terroir, ça peut être aussi une manière de définir l'identité. La nature, cette nature un peu fantasmée et idéalisée, elle peut servir de point d'appui à un projet nationaliste, raciste, ethno-différentialiste, mais elle peut aussi servir d'appui à un projet patriarcal. Et c'est pour ça d'ailleurs que... la référence à Heidegger est aussi constante parce que Heidegger, c'est l'apologie de l'authenticité, mais aussi la critique de la technique, c'est-à-dire de tout ce qui est instrumentale, artificielle et tout ça.
À quand l'écologie banlieusarde qui fait la défense du terre-terre?
Ah oui, finalement la mobilisation de l'écologie comme la manière de défendre un ordre existant, finalement on voit que ça marche au niveau du capitalisme, au niveau du nationalisme, mais aussi finalement toutes les classes dominantes, que ce soit la classe patriarcale, la classe raciste, les groupes nationalistes, etc., mobilisent la nature de manière de plus en plus forte depuis une trentaine d'années, parce que la nature, depuis 40 ans, évidemment est devenue une référence, enfin a toujours été une référence incontournable, surtout à l'extrême droite, puisque tous les systèmes de domination actuels reposent sur la naturalisation des rapports sociaux de domination.
Et là, effectivement, on retombe tout de suite sur Nietzsche, du coup, donc, qui parle parfaitement de ça. Lui passe son temps à naturaliser les oppressions, à dire que le patriarcat n'existe pas, c'est juste la force des femmes contre la force des hommes qui sont en contradiction puis se réunissent. Enfin, en tout cas, il n'y a pas du tout de hiérarchie là-dedans, quoi. C'est la nature. Mais en fait, tout ça, ça se résume à un seul argument fallacieux qui est l'appel à la nature, quoi. C'est alors que la nature, ne prescrit rien, par essence, des rapports sociaux que nous devons organiser. Après, c'est pas pour ça qu'il faut la nier non plus, tu vois. Je pense que on peut aussi aller étudier la nature sans forcément tout de suite étudier aussi la nature de nos rapports sociaux, sans forcément tout de suite tomber dans un appel à la nature, quoi.
Oui. Par rapport à ça, je pense que pour moi, la vraie question écologiste, c'est simplement la transformation de notre société pour que, notamment, il n'y ait plus des rapports prédateurs ce qu'on appelle la nature, les milieux naturels, etc. Et je pense que pour moi, ça suffit comme optique. On a juste besoin de dire cesser. Mais par contre, le fait qu'on mobilise l'écologie pour juger des rapports de genre et pour développer des discours qui peuvent être misogynes ou transphobes notamment, même sous couvert de critiques anti-industrielles ou décroissantes, c'est intolérable. Et par exemple, la décroissance, en 2013, lors de la manif pour tous, était quand même assez complaisante vis-à-vis des réactionnaires. Finalement, tout ça dans une de par son idéologie où ce qui est naturel est bon et ce qui est entre guillemets artificiel est mauvais. Alors que si on lit par exemple les féministes matérialistes comme Paola Tabet, on se rend compte que des choses comme l'hétéronormativité ou la procréation forcée, etc., sont des phénomènes tout aussi sociaux et artificiels que la transsexualité, les phénomènes trans, et que n'a rien à faire dans ces questions, dans les questions de genre, tout discours écologiste qui prétendrait régir les rapports de genre doit être rejeté, puisque on voit pas en quoi est-ce que l'impact de enfin si ça avait un impact écologique gigantesque, peut-être qu'on pourrait en discuter, mais il me semble pas que le fait de transitionner pour des personnes trans ça entraîne le dérèglement climatique. Je suis un peu ironique, mais bon, c'est vrai que
c'est une thèse très coûteuse à mon avis, hein.
Ouais. Donc bon, voilà, c'est finalement, je pense que faut se contenter de ne pas avoir un rapport prédateur, promouvoir une société et des rapports sociaux qui ne n'amènent pas à une prédation vis-à-vis des non-humains, là ça inclut aussi les animaux, et vis-à-vis des milieux naturels, Mais à part ça, les rapports sociaux, ils doivent être faits en autonomie complète. Voilà, des questions de nature ou de pas nature, quoi. Et donc, et d'ailleurs, c'est quelque chose que souligne Alain Beer dans L'actualité d'un archaïsme, qui c'est un peu son ouvrage sur l'extrême droite. Il dit que une des composantes fondamentales de l'extrême droite, c'est le fait de recourir à l'idée de nature pour tout justifier. Et ça, évidemment, il n'y a pas que l'extrême droite qui le fait. Mais l'extrême droite en est évidemment la quintessence, puisqu'elle justifie tout par la nature. Alors peut-être, je vais peut-être répondre à la question sur l'effondrement. Bon, alors ça nous éloigne un petit peu de Kechteyan, mais bon, aussi quoi que, il parle un petit peu de la place de l'armée par rapport à ça. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que moi, j'ai du mal à concevoir un grand effondrement, une espèce de Big Bang où à un moment tout va s'effondrer. Peut-être qu'il y aura un moment une crise très violente du capitalisme qui ouvrira la voie, pourquoi pas aussi à une révolution mondiale, si on reprend notamment les thèses de la communisation. Mais par contre, je pense qu'à un niveau écologique, ça risque de se manifester plutôt par une multiplication des événements météorologiques extrêmes de type cyclone, de type typhon, etc., etc. Et donc, ça risque d'être un processus assez long où il y aura des phases de crise très intenses et où malheureusement, ce qui risque de se passer, c'est que en l'absence d'une révolution mondiale qui, à mon avis, ne serait pas tellement liée, mais plutôt, à mon avis, à une crise économique, en l'absence de révolution mondiale, donc, il y aura plutôt une multiplicité de petits effondrements locaux liés à des événements météorologiques extrêmes, que là, soit où on laissera pourrir les gens, comme aujourd'hui c'est le cas quand il y a des guerres civiles en Afrique ou dans les périphéries effondrées qui ne servent plus à rien au capital mondial, soit il y aura un rétablissement de l'ordre brutal comme à Katrina. Après, sur la dimension un peu plus processuelle de l'effondrement, entre guillemets, même si là, du coup, je ne sais pas si on devrait parler d'effondrement, parce que l'effondrement, ça donne vraiment l'idée d'une espèce de gouffre à un moment, enfin, peu importe. Sur le processus, bah oui, c'est sûr que ça va compliquer énormément. Pour prendre l'exemple du dérèglement climatique, ça va faire que les conditions de vie et de travail de la majorité des gens vont être de plus en plus pourries. J'ai quand même tendance à croire que... soit le capitalisme nous précipitera avec lui dans sa perte, mais...
Moi, je trouve qu'ils ont toujours tendance à sous-estimer le capitalisme et à le prendre comme une grosse machine sans rapports sociaux, en fait, et qui, juste techniquement, à un moment, arriverait à ses limites. Et du coup, ils sous-estiment parfaitement toute la violence que va être capable de déchaîner le capitalisme pour maintenir la hiérarchie dans un moment de crise, en fait. Il y a une approche très formelle de l'effondrement qui prend pas en compte la répression, ou si elle la prend en compte, c'est simplement d'un point de vue quantitatif produire des bombes lacrymogènes, écologiquement c'est coûteux, etc. Enfin oui, écologiquement c'est coûteux évidemment, mais socialement aussi, quand on les prend sur la gueule et quand ça participe à la réaction, ça a d'autres effets que purement écologique, quoi. Et du coup, je trouve qu'il manque toujours un petit peu cette donnée sociale dans les raisonnements des thèses de l'effondrement, dans la collapsologie, qui fait complètement abstraction de la lutte des classes et des rapports hiérarchiques là-dedans. D'ailleurs, très souvent, je trouve que ça mène à des conclusions du style « Ah oui, c'est l'humanité dans sa globalité qui est responsable, c'est notre consommation collective qui est un peu... »
C'est clair. Je sais pas si t'avais fini, peut-être que c'est ton micro qui coupe, mais moi en tout cas, la collapsologie, on va dire que pour faire réfléchir les classes moyennes et leur foutre les jetons, c'est intéressant, mais sinon, moi je vois pas en quoi est-ce que Enfin, à la limite, on peut dire que ça veut dire qu'il y a une urgence écologique au capitalisme. Mais à mon avis, il y a une urgence écologique à sortir du capitalisme, mais à mon avis, le capitalisme peut continuer jusqu'à un niveau d'effondrement assez important. Et moi, la seule chose que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que il faut pas attendre que le capitalisme s'effondre. Comme par exemple, il y avait un petit peu cette idée que, voilà, avec la réfaction des ressources, le capitalisme a se cassé la gueule. Moi, je crois pas du tout. Je pense que le capitalisme, jusqu'au bout, et que donc, il y a besoin d'un peu de volontarisme pour l'arrêter. Bon, évidemment, il y aura des conditions qui permettront ce volontarisme. Là, manifestement, c'est pas trop le cas. Mais, voilà, enfin, moi, ça, enfin, en tout cas, il n'y a rien à attendre de l'effondrement progressif. Je pense, c'est pas la collapsologie, c'est pas nécessairement ça, mais enfin, en tout cas, il n'y a rien de bon à attendre d'un effondrement progressif des processus naturels. Alors après, oui, il y a une limitation des ressources, mais les ressources où moi, de ce que j'avais lu, les ressources qui sont les plus rares, il y en a encore pour 20 ans au rythme actuel de production. Et ça, il y a toujours la possibilité de substituabilité, ça a existé dans l'histoire. Et évidemment, les coûts d'exploitation risquent de monter. Mais malheureusement, le capitalisme, voilà, peut-être qu'à un moment, ça va être le serpent qui va se mordre la queue, mais par exemple, le gaz et le pétrole de schiste, maintenant, il y a des développements de techniques qui font que c'est moins inefficace énergétiquement. Enfin, je dis pas que, bien sûr, que le capitalisme va aussi se prendre dans la gueule la crise écologique et notamment une raréfaction des ressources, une augmentation des coûts d'exploitation. Mais à mon avis, c'est clairement pas ça qui va empêcher le plein déploiement de la crise écologique. Mais après, peut-être que je me trompe. Mais on a vu, par exemple, sur tout le truc, sur le pic pétrolier et tout, ça fait 10 ans qu'on est censé se l'être pris dans la tronche. Voilà. Après, oui, alors après, il y a la question des... Mais après, le problème sur les... Enfin, sur la raréfaction des ressources, c'est que si le capitalisme, à un moment, se confronte à ça, il est probable que, du coup, il donne un... Voilà, qu'il recourt massivement au recyclage. Enfin, malheureusement, on peut envisager toutes sortes de choses, la substitution, le recyclage. Après, je dis pas que ça va pas arriver, qu'il va pas y avoir effectivement une raréfaction des ressources, mais en tout cas, moi, je pense qu'on peut pas en attendre trop.
Bon, l'état des choses, j'aurais plutôt tendance à croire que c'est plutôt une réaction et un fascisme écologique qui pourrait se mettre en place plus que simplement, oh pouf, le capitalisme il marche plus, mince, le jouet il est cassé, bon bah tant pis, maintenant on vit entre égaux.
Oui. Il n'y aura pas de conscience humaniste de, on ne peut plus faire autrement, changeons de société. Non mais après, je suis d'accord avec le scepticisme de zadiste distribuidor d'Issemias. Bien sûr qu'il y a des limites, bien sûr qu'il y a des limites écologiques au capitalisme. Il y a des limites locales et il y a bien des limites globales aussi. Mais je ne sais pas si on doit en attendre grand-chose, honnêtement. Enfin, bon, peut-être dans 20 ans ou dans 30 ans, on verra, mais...
Eh bien, le moment où on sera... Enfin, déjà, quand ça a embarqué la moitié de la biosphère, le moment où, de toute manière, si le capitalisme, il arrive à embarquer 90% de la biosphère, bon, bah voilà, il aura beau être arrivé à sa fin... on sera quasiment tous morts. Donc bon, ça nous fait une belle jambe. Genre, ouais, il n'y a plus de capitalisme. Bon, personne n'est vraiment là pour le constater, mais oui. Voilà, il est mort. Enfin, comme... ça, je pense qu'on peut tous être d'accord à ne pas en douter qu'effectivement, un jour, il n'y aura plus de capitalisme dans l'univers. Oui. Alors,
ça... Mais après, là où je suis d'accord avec ce distributeur d'Issemias, c'est que... effectivement, l'horizon est quand même assez proche.
Ouais.
Sur certaines choses, l'horizon est assez proche, sur d'autres, c'est un peu plus lointain. Mais je sais pas, bien sûr qu'il y a des limites, il y a une contradiction externe avec le capitalisme. il y a une contradiction interne avec voilà, la crise structurelle du capitalisme, qu'effectivement, on ne va pas tarder à se prendre dans la gueule tôt ou tard, parce que là, c'était il y a 10 ans, la dernière crise, et on sait que les crises sont quand même assez récurrentes. En Chine, le taux d'endettement général est quasiment celui des États-Unis en 2007, donc ce qui donne un peu une idée de la chose. Mais à la limite, moi, j'attends plus d'une crise économique globale où là, les gens seraient. Après, la pire chose qui peut arriver, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est une dégradation progressive des conditions à la fois environnementales et des conditions sociales. Et à la limite, parfois, il vaut mieux quelque chose d'un peu brusque. Par exemple, si on reprend la crise grecque de 2008 ou la crise argentine de 2001, ça a été extrêmement soudain. Et ça a fait qu'il y a quand même eu des mobilisations très radicales qui, en Grèce, n'ont pas tourné. Il y a quand même eu des émeutes extrêmement importantes. Il y a quand même eu des pillages, un assaut des lieux de pouvoir, etc. Si ça se répète à une échelle mondiale, après, je ne suis pas non plus en train de dire c'est génial la crise. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Mais simplement que il vaut mieux une phase de crise aiguë qui fait que les gens n'ont pas d'autre choix que de s'en prendre au rapport capitaliste, plutôt qu'une dégradation lente de la situation où de plus en plus de gens qui restent dans les rapports socio-capitalistes sont de plus en plus dans la merde, et après une plus grande partie. Et des gens qui de plus en plus sont exclus de ces rapports socio-capitalistes, tout en n'ayant pas d'autre manière pour survivre. Mais après, bon, ça pose plein de questions.
Qui sont d'ordre stratégique dans la lutte, mais effectivement, c'est plus intéressant, je trouve, de finir sur ce questionnement-là, tu vois, que sur les questionnements qu'on a l'habitude d'entendre avec « Ah, mais mince, comment on fait pour continuer de manger des McDo sans détruire la planète ? Et puis moi, je veux garder mon smartphone.
» Ouais, bah, qui vivra, verra.
Ouais.
Si le communisme libertaire mondial pourra produire des smartphones.
On verra. Bon, et bien du coup, je vous propose de conclure ici. Là, on est déjà bien une heure et quart, je pense. Donc, c'est pas mal. On a abordé pas mal de sujets, donc c'est cool. Je trouve ça super intéressant. Un mot de la fin, peut-être
Eh ben, non, bah que du coup, effectivement, la nature est un champ de bataille et que voilà, il faut une écologie politique, anticapitaliste, antiraciste, féministe, etc., qui s'attaque aux problèmes écologiques par la racine, c'est-à-dire en s'attaquant au capitalisme, et non pas en faisant un mot d'ordre ou bourgeois, ou nationaliste, ou identitaire, ou patriarcal. Voilà, ça me paraît être une bonne conclusion.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.